marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
À l'époque, le Sénégal n'avait pas encore formé beaucoup d'ingénieurs et donc il manquait de personnel qualifié. Et comme la France fournissait un certain nombre de coopérants, donc ils étaient preneurs effectivement d'ingénieurs français, comme de médecins et de cadres, en attendant qu'ils aient formé suffisamment de personnes. D'ailleurs, bon, quand je suis parti, j'étais remplacé par un ingénieur sénégalais qui venait de ce qu'ils appelaient l'école polytechnique de Thiès.
Généralement, même après les indépendances, ici le chef de phare s'appelait le maître de phare. Il était français. Le maître de phare, grosso modo, c'est quelqu'un qui avait des connaissances peut-être supérieures aux connaissances des gardiens qui s'arrêtaient à allumer, éteindre et conduire les visites guidées.
Les voix de Amadou Sy et Jeanlin Gouenvec, les deux personnages principaux du documentaire sonore « Les maîtres de phare » proposé par Vincent Guiguenot pour la Marche du Monde. Bonjour Vincent.
Bonjour Valérie.
Vous enquêtez depuis 2 ans sur l'héritage colonial des phares et balises et vous avez découvert que jusqu'en 1984, la France a envoyé des ingénieurs dans ses anciennes colonies, comme Jeanlin Gouenvec, pour former des gardiens de phares, comme Amadou Sy. Comment vous avez découvert cette histoire?
Pendant quelques années, je me suis occupé du patrimoine des phares de France et j'ai constaté qu'on réduisait souvent ce patrimoine d'abord à la métropole, sans parler des outre-mer. Et en plus, on oubliait tous ces phares qui avaient été construits pendant la période coloniale française. Donc j'ai d'abord commencé par m'intéresser aux phares construits par les Français un peu partout dans le monde. Et en allant visiter certains d'entre eux, en particulier en Algérie et au Maroc, j'ai rencontré d'anciens gardiens qui ont commencé à me raconter leur formation en France, à Brest. Donc je suis retourné à Brest, j'ai commencé à travailler dans les archives, et là, effectivement, j'ai découvert que, après la Deuxième Guerre mondiale, au moment des indépendances, la France avait accueilli beaucoup de gardiens de ses futures ex-colonies pour leur apprendre le métier de gardien de phare.
Alors pour remonter le fil de cette histoire coloniale, à quand remonte la construction des phares le long des côtes de l'Empire français ?
Bien, elle date du 19e siècle. La France, en métropole, commence à se doter d'un réseau de phares important à partir des années 1830. Et on voit que très vite, d'abord dans le premier système colonial français, en Guadeloupe, Martinique, à La Réunion, dès les années 1840, on construit des phares. On va en construire aussi vite en Algérie. Et puis, au fond, on va suivre l'expansion de l'Empire colonial français. Et à chaque fois qu'on va annexer un pays, un port, on va y installer des phares.
Donc ça veut dire que les Français construisent des phares sur les côtes françaises et africaines. Mais en réalité, ils ne s'arrêtent pas là.
Ah non, on va aller jusque dans le Pacifique, on va construire un phare à Tahiti, on va en construire un très beau en Nouvelle-Calédonie, auquel j'ai consacré également un livre, en Indochine. Donc partout où les navires français touchent un port, avant que le navire puisse arriver, il faut avoir des cartes fiables, il faut avoir des feux pour que ces navires puissent en toute sécurité aller et venir dans ces ports coloniaux.
Alors en ce qui concerne l'Afrique coloniale française, quels sont les phares aujourd'hui qui témoignent de cette histoire ?
On peut en citer quelques-uns. On peut partir du Cap Spartel au Maroc, qui était un phare qui avait un statut un peu particulier, un phare international, mais construit par un ingénieur français. On va bien sûr parler du Sénégal, et puis je sais pas, Grand Bassam en Côte d'Ivoire également, la première capitale coloniale française de Côte d'Ivoire. Il y a un phare qui d'ailleurs est classé patrimoine de l'UNESCO.
Et en ce qui concerne votre enquête et le documentaire que nous allons écouter ensemble, vous êtes allé jusqu'à Dakar.
Oui, parce que j'avais rencontré à Saint-Germain-en-Laye, où il y a le siège de l'Association internationale de signalisation maritime, le capitaine Amadou Ndiaye, qui est le chef des phares et balises du Sénégal et qui m'avait invité à venir voir son phare important, qui est le phare des Mamelles.
Une histoire de colonisation et de décolonisation dont les traces sont encore visibles, notamment à Dakar, à travers ce phare des Mamelles. Dakar où les premières escales des navires à vapeur, des messageries impériales au milieu des années 1860 ont pu passer. C'était à l'époque évidemment ces grandes routes fluviales qui traversaient la terre entière. Quelles étaient ces grandes routes maritimes qui avaient besoin justement d'être éclairées par ces phares pour que les bateaux ne s'échouent pas sur les côtes?
Dans le cas de Dakar, c'est très clair dans les archives, les messageries impériales, devenues après les messageries maritimes, veulent ouvrir une route vers l'Amérique du Sud. La route ne peut pas être directe, il faut faire une escale. Et on peut dire que Dakar est une sorte de ville nouvelle des messageries impériales, puisqu'il y a besoin de s'y ravitailler en eau, en charbon. Et c'est ces messageries qui vont demander aux ingénieurs du génie qui sont à Gorée de construire un phare à l'extrémité du Cap-Vert, donc sur l'une des deux mamelles, puisque c'est comme ça qu'on les appelle.
Alors, héritiers de cette histoire coloniale, les deux personnages principaux de votre documentaire, Jean-Alain Gouenvec, donc l'ingénieur français, et Amadou Sy, donc son élève sénégalais, on les retrouve tous les deux dans les maîtres de phare.
Lorsque je suis arrivé au Sénégal, donc quelques semaines ou quelques jours après ma prise de poste, un des gardiens du phare des Mamelles est décédé. Il était originaire de Brousse, dans la région du Louga, peut-être quelque chose comme ça, dans le nord du Sénégal. Et à l'issue de la cérémonie de mise en terre, tout le monde s'est retourné vers moi, tous les gens qui assistaient à l'enterrement, la famille du défunt et les autres. Et la tradition voulait que, lorsqu'il y avait un enterrement, le chef de service fasse l'éloge funèbre du défunt. Or, personne ne m'avait prévenu. Et je me suis retrouvé complètement court. Je ne connaissais absolument rien de l'histoire de la personne qui était décédée, que j'avais jamais rencontrée. Et là, j'étais vraiment incapable de faire ce discours. Heureusement, Abdoulaye Mbaye est venu à mon secours et puis a fait un discours très long et très enthousiaste, ce qui m'a vraiment sorti une grosse épine du pied. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'assister à d'autres obsèques de personnel de la subdivision ou de gardien de phare où j'avais pris mes précautions à l'avance et où j'ai pu faire un discours tout à fait correct. Abdoulaye Mbaye était un de mes bras droits. Moi, j'avais un adjoint donc, qui s'appelait Chemseddine Diagne qui s'occupait de toute la partie administrative et Abdoulaye Mbaye était le chef d'atelier phare et balise. C'est lui qui dirigeait les ouvriers, qui s'occupait de la peinture des bouées, qui s'occupait des chaînes, qui supervisait l'entretien de l'ensemble des phares. Et c'était quelqu'un qui avait déjà pas mal de bouteilles et d'expérience et qui était quelqu'un de très compétent et qui avait beaucoup de qualités humaines. Il était maître de phare, donc responsable du phare des Mamelles. Il avait un adjoint qui s'appelait Moussa Ndao. Et ensuite, alors il y a plusieurs gardiens, dont Amadou Sy. Il y avait donc 4 ou 5 familles qui habitaient dans les différents logements avec leurs femmes. Et puis, en général, une dizaine d'enfants, ça faisait une sacrée marmaille, une sacrée équipe quand j'allais faire un tour là-bas.
Voilà, moi je m'appelle Amadou Sy, j'ai 62 ans. Depuis les années 84, je travaille au phare et balise. Bon, j'ai été tour à tour maître de phare des Mamelles, adjoint plutôt au maître de phare des Mamelles, responsable des feux de côte et chef service maintenance des aides à la navigation. Donc, dès mon retour de la métropole, bon, de France, je veux dire, je devais être maître de phare des Mamelles, parce qu'à l'époque, Ablaye Mbaye, qui était le premier maître de phare après les Français, devait prendre sa retraite. Il devait être remplacé, bien sûr. Bon, il y avait son adjoint, qui n'était pas bien sous la confiance de M. Gouenvec. Mais après mon arrivée, il m'a dit, j'ai beaucoup de problèmes sur les feux qui sont éparpillés au niveau du Sénégal. Je paye beaucoup d'électricité, il faut quand même voir si c'est l'automatisme ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, au lieu d'être maître de phare, j'ai été responsable des feux de côte. Par la suite, comme le phare va être rénové sous peu, il m'a dit d'être adjoint au maître de phare de Mamel, qui n'avait pas le même niveau que moi, parce que les appareils au niveau des phares et balises suivent bon, la technologie, donc les changements sont vraiment très rapides.
C'est dans le cadre des accords de coopération entre le jeune Sénégal indépendant et la France que l'ingénieur Jean-Alain Gouenvec vient former des gardiens de phare dans la capitale de l'ancienne Afrique occidentale française.
Je suis arrivé à Dakar en janvier 1972. J'avais à l'époque 24 ans. C'était mon premier poste effectif après donc celui de l'école navale. J'avais décidé de faire ma carrière au phare et balises lorsque j'étais en classe préparatoire à Brest. Après avoir été faire un tour à la subdivision des phares et balises de Brest, j'avais dit que c'était tout à fait un métier qui me convenait, puisque je cherchais un métier qui avait un rapport étroit avec la mer, et puis travailler pour la sécurité des marins en mer, ça me plaisait bien. J'ai fait mon service militaire dans la marine à Brest en 70. Et à l'époque, j'ai écrit au directeur des phares et balises. Et je lui ai dit que je voulais faire carrière au phare et balise et que je cherchais un poste aussi bien en France ou outre-mer, ça m'était égal. Il m'a répondu qu'il y avait une possibilité à Dakar. Donc j'ai dit d'accord, ça me plaisait bien et j'y suis resté 12 ans.
Dans la tête de M. Gouenvec, c'était que je sois son adjoint. Ça c'est sûr, il ne le disait pas, mais dès mon accession à ce poste de maître de phare, bon, moi, j'ai demandé à ce que les gardiens soient formés, parce que comme j'ai cumulé la fonction de maître de phare et chargé d'entretien des feux de côte, il m'arrivait de m'absenter au minimum 2 jours pour être à Saint-Louis ou à Casamance dans le cadre de dépannage. Donc c'est par la suite que vraiment le métier de maître de phare quand même a resté, mais c'est devenu carrément un électromécanicien, quelqu'un qui sait faire des dépannages. Et disons ce qu'on appelait le moniteur vérificateur en France, c'est-à-dire tous les travaux techniques des phares et balises.
Les maîtres de phare, c'est votre documentaire, Vincent Guignot, dans lequel nous découvrons Amadou Sy, un maître de phare qui, lui, n'envisageait pas un autre destin, puisque sa vocation est familiale. C'est ce qu'il vous a montré, je crois, à travers ses archives personnelles.
Oui, il m'a confié donc son témoignage et il m'a montré une photo de sa famille au phare des Mamelles.
J'ai entre les mains une vieille photo de mon père avec cette une de gardien de phare, sa casquette. Bon, son cousin qui est derrière là, qui par la suite a fini par être gardien de phare, et ma mère. La photo est prise au Mamelles parce que ça, c'est la cuisine des gardiens de phare. C'est les cuisines des gardiens de phare qui sont là derrière.
Alors, dans quelles circonstances le gardien de phare mettait ce bel uniforme là qui est sur la photo, ce pantalon blanc, cette chemise, cette veste et cette casquette?
À chaque fois qu'il prenait son car à 15h pour amener les visiteurs, il devait être en tenue. Contrairement à maintenant où bon, le gardien peut être en civil, bien qu'on leur donne des tenues, ils ne les mettent pas. Ils les mettent rarement. Là, bien sûr, on voit que le gardien avait une tenue de travail qu'il mettait le matin, quand il faisait l'entretien. C'est la tenue qu'a le cousin Cissé, et tenue d'espèce de tenue d'apparat, si vous voulez, quand il recevait l'après-midi les visiteurs au niveau du phare. Je me rappelle même quand je recevais le président de la République au niveau des Mamelles, tous les gardiens étaient sur leur carte épingle, comme on dit, mais pas en tenue de... Comme ici, on voit le gardien là, ils étaient simplement en tenue traditionnelle, soit en veste, mais pas en tenue de phare et balise. Nous, on n'avait pas cette tenue-là. Ouais. Le maître de phare n'avait pas cette tenue. C'est simplement les gardiens. Ouais. La photo, je crois qu'elle date des années 75. Je l'ai prise moi-même, hein, au phare. Ça, c'est aussi vraiment un souvenir. Hein. Étant fils de gardien de phare, bon, j'avoue que j'étais toujours au phare et balise, donc je m'intéressais au métier et pour remplacer peut-être le maître de phare. Parce que bon, l'avion phare, bon, le maître de phare, on le voyait en chef, bon, voilà quelqu'un qui est bien socialement, qui est bien. Et le métier, c'est dans cet ordre d'idée que petit à petit, j'ai demandé de remplacer des gardiens qui sont en congé. Voilà, c'est venu comme ça.
Lorsqu'il s'agit de trouver des remplaçants pour les vieux gardiens qui, pour la plupart, étaient, avaient une formation extrêmement légère, en fait, on m'a proposé les meilleurs jeunes qui étaient parmi les enfants des gardiens de phare. Et c'est le chef, le maître de phare, Abdoulaye Mbaye, qui me les a présentés. Certains sont venus travailler à la subdivision, d'autres pas. Donc je me suis fié au jugement d'Abdoulaye Mbaye, qui était quelqu'un, lui, d'extrêmement perspicace et très compétent.
Bon, c'est Jean-Alain Gonvec qui avait proposé ma candidature. Un Français, c'est le dernier d'ailleurs. Bon, c'était lui le chef de subdivision, il s'occupait de l'administration. Et donc il faisait les travaux là, celui qui faisait l'hydrographie et même la plongée. Parce que c'était un Breton qui aime vraiment la mer. Hein.
Quand je suis arrivé, la subdivision des phares et balises de Dakar était faite sur le modèle des subdivisions des phares et balises de France. Il y avait un grand baliseur qui était identique à celui de Marseille et celui du Havre, et qui avait un équipage sénégalais, mais des officiers français. Au-dessus de la subdivision des phares et balises, qui occupait le rez-de-chaussée, il y avait une villa qui se trouvait au-dessus. Enfin, le deuxième étage était un très bel appartement. Il y avait un jardin derrière avec de jolis arbres, notamment un très beau flamboyant. Et donc j'ai passé d'excellentes années là-bas. Mon adjoint était un électromécanicien de phare, il a fait l'école de Brest. Et le chef de parc était également un électromécanicien de phare. Quand je suis reparti, le capitaine venait d'être remplacé par un Sénégalais, mais le chef mécanicien était toujours français. Ensuite, peu de temps après, également, il a été remplacé par un Sénégalais.
Et afin de préparer la relève, les gardiens repérés par Jean-Alain Gonvec à Dakar sont envoyés en France, à l'école des phares, dont les élèves, comme Amadou Sy, ont été redécouverts par Vincent Guiguenot lors de son reportage.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce voyage et cette première impression de l'école à Brest?
Bon, le voyage, c'était un voyage exténuant, parce qu'un voyage très long, parce que de Dakar à Paris, c'est l'avion. Là, c'est reposant, mais de Paris à Brest, la route est longue parce que je croyais une partie qui est électrifiée, le train, mais l'autre partie est en diesel, où on a mis beaucoup de temps. Je crois que je suis arrivé à Brest au-delà de minuit. Et j'ai passé la nuit à l'hôtel et le lendemain pour être à l'école. Quand on me réveillait à midi, moi je croyais qu'il n'est même pas 5h du matin parce que vraiment j'étais fatigué. Bon, à l'école j'ai été bien accueilli par un doyen. À l'époque, il restait un an pour prendre sa retraite. Il s'appelle M. Malgorn, Auguste Malgorn.
Bon, ici vous êtes devant une optique d'horizon.
Auguste Malgorn, doyen instructeur à l'école de Brest.
Ou une partie de 360 degrés. Mais nous possédons encore d'autres modèles d'optique, évidemment. L'optique de feu éclat. Feu éclat, par exemple, on pourrait citer encore le phare d'Armel, le phare de l'Île-Vierge, le phare des pierres noires, le phare de la jument, d'Ouessant, le phare de Créache. On possède des optiques à éclat à ce moment-là, mais ce n'est pas le même modèle que ça.
Les phares d'Armène, d'Ouessant, du Créache, autant de sites mythiques associés à l'histoire des gardiens de phares. Tous formés à l'école de Brest, y compris les Sénégalais devenus les maîtres de phare de l'indépendance. Une enquête historique de Vincent Guiguenot à suivre dans la marche du monde sur RFI.
Du monde.
Le soir tombe. C'est l'heure où le marin de quart, près des côtes, scrute l'horizon d'un œil plus soutenu. C'est l'heure où, là-haut, les hommes du feu accomplissent les mêmes gestes rituels. Un à un, se répondant dans la nuit, les phares de France s'allument. À terre, les épouses des gardiens se sentent rassurées, car ce petit éclat leur dit que là-bas, tout va bien. Alors, devant le prestigieux carrousel des lentilles, commence la longue veille, la veille du feu. Ce feu que l'homme, par la main de Prométhée, déroba aux dieux, et dont son génie, aujourd'hui, illumine les mers.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Nous sommes en 1937. Tous les soirs, à la tombée de la nuit, les phares de la Grande France s'allument pour guider au loin les marins. Mais à l'époque, les phares ne sont pas tous bretons, pas plus que leurs gardiens, comme le montre Vincent Guignot dans son documentaire sonore « Les maîtres de phares ». Une histoire traversée par la colonisation, puisque c'est le service fédéral de l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui crée dans les années 50 un grand centre de balisage à Dakar pour toute l'Afrique de l'Ouest. Une histoire également traversée par la décolonisation, puisqu'à l'indépendance, les Français sont venus former les Sénégalais dans le cadre des accords de coopération. Des Sénégalais qui ont dû faire le voyage à Brest, comme le raconte Amadou Sy, à l'école des phares. S'il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait quand même beaucoup de Bretons.
Ah, oh, voilà, c'est toute une histoire. Je suis venu au phare, moi, c'est que, comme je faisais la plongée profonde sur des épaves, j'ai eu un accident de plongée. Un problème avec les oreilles, donc il n'a plus été question que je plonge. Et là, je me suis dit, ma femme est en Ouessantine, il faut que je fasse quelque chose à Ouessant. Et je suis venu à Ouessant, même sans rien avoir. Je savais que, qu'étant assez courageux et sachant à peu près tout faire, je trouverais quelque chose sur Ouessant. Et j'ai commencé, j'ai pris une alimentation sur Ouessant. Et dans cette alimentation, on était chargé de faire l'avitaillement des vivres pour les phares en mer. Donc je faisais leurs caisses que j'emmenais le matin de la relève, je les emmenais sur le quai à bord du bateau pour la relève, quoi. Et un jour je me suis dit, tiens, il faudra que j'aille faire une relève quand même. Donc j'ai demandé au patron, il dit pas de problème. Donc j'ai fait une relève et là je me suis dit, Jean-Pierre, c'est ça que tu vas faire, gardien de phare. Voilà, tout est parti de là.
Jean-Pierre Lecoq, élève breton de l'école des phares en 1976, à l'âge de 32 ans.
Donc j'ai postulé à l'époque qu'il fallait faire minimum un an comme auxiliaire pour savoir si le gars était apte à faire le boulot, quoi. Parce que après j'en ai connu des gars qui venaient moi faire un remplacement dans les phares, mais ils en faisaient un, on les voyait plus, quoi. Une semaine avec la tempête dans le phare et puis le gars il disparaissait, quoi. Et ça m'a plu. Et ensuite j'ai passé le concours pour pouvoir aller à l'école des gardiens de phare. On était tous là pour faire des gardiens de phare, donc on était assez soudés. On était trois Ouessantins. Il y avait des étrangers aussi. Il y avait déjà cinq Malgaches, deux Marocains. J'allais dire les Corses, mais ce ne sont pas des étrangers. Avec les Bretons.
Monsieur Henri Mouraccioli, ancien gardien de phare de Sénétose, a fait tous les phares de la Corse du Sud, Sénétose, la Vezzi, Pertusato, la Chiappa, et fini à Sénétose en 2008. Moi, je suis du côté d'un village qui s'appelle Ocana, qui est à 25 km d'Ajaccio. Ma famille est de là-bas. Je suis rentré vraiment par hasard au phare Balise, au mois de juillet 1976. Par de bouche à oreille, il cherchait quelqu'un pour travailler au parc de phares et balises. Et après, on m'a proposé à faire des remplacements dans les phares. Et j'ai commencé comme ça, puis je suis parti à l'école à Brest pendant un an, en 79. Et j'ai commencé ma carrière de gardien de phare en 80, en étant titulaire. L'ingénieur m'a posé la question, il dit voilà, il y a... Est-ce que ça vous intéresserait de partir faire un stage à Brest pour apprendre le métier pendant un an? Là, ça a été dur. Bon, je suis parti avec Domé Casanova, un ami. On était ensemble au phare et tout, à Sénétose. Lui était du village de Mocacroce. On s'est retrouvé à Ajaccio, on a pris le bateau, on est parti en voiture et arrivé à Marseille, direction Paris, et après Paris-Brest. À Brest, on est arrivé le matin à 8h et on a commencé directement les cours.
Le centre des phares et balises, c'est aussi l'école des gardiens de phares. Il faut être mécanicien, bricoleur, dessinateur, radio, électricien, marin.
Bon, alors, couillon, faites-moi le chaise 5. Là, parfait.
Alors, deuxième fusible.
Deuxième fusible, hein. Alors, ça arrive ici.
C'est bon.
Il faut aussi tout savoir sur les antiques et superbes feux à pétrole, les seuls qui soient assez fiables dans les grands phares isolés.
Donc, qu'est-ce qu'il y avait? 4, 8, on devait être 15 ou 20 à peu près. Nous, en Corse, on était 4. Il y a des Bretons, des Malgaches, Gabonais. Il y avait un Algérien, un Tunisien.
Des Bretons, mais aussi des Corses, des Tunisiens, des Sénégalais, tous convergent vers l'école des phares de Brest dans ces années d'après les indépendances, car dans le contexte de décolonisation de l'après-guerre, la France accueille des gardiens de tout l'Empire pour les former et prendre la responsabilité des phares. Alors ces futurs maîtres de phares rejoignent cette école à Brest, Vincent Guignot. On aimerait en savoir plus d'ailleurs sur cette école de Brest. Existait-elle déjà au temps des colonies ?
Alors c'est assez tardif hein, la création d'écoles pour former les gardiens. L'idée commence à émerger avant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a un nouveau statut d'électromécanicien de phare. On ne parle déjà plus de gardien de phare, mais d'électromécanicien avec un corps. Et le statut précise que pour être électro, il faut avoir fait une école. Or, il n'existe pas d'école. Le métier de gardien s'apprenait de manière assez coutumière. Donc, on crée en fait plusieurs écoles au départ, dans le Pas-de-Calais, au Cap-Grinet, aux Baleines, à Saint-Nazaire, et puis à Brest, qui est la plus grosse subdivision de France. Et dans les années 70, l'ensemble de ces cours vont se rapatrier à Brest. Et dans le même temps, puisqu'il y a décolonisation, on passe des accords avec tous les pays où nous avons construit des phares. Et ces pays envoient des stagiaires, quelques-uns par promotion, et on arrive à ces cours où se mêlent bretons, corses, gabonais.
Et à votre sens, et suite à votre enquête, comment ça se passait entre ces futurs gardiens? Parce que vous en avez retrouvé beaucoup, et ils ne sont pas tous, dans votre documentaire. Quel état d'esprit vous font régner dans cette école juste après les années 60, puisqu'on est justement après la décolonisation, juste après?
Alors, tous les gardiens que j'ai rencontrés, d'abord, sont très marqués par ce cours de Brest. C'est très frappant, alors qu'on les interroge souvent sur leur vie au phare, sur l'allumage. Ils reviennent assez souvent sur cette période, parce qu'au fond, après, on est gardien tout seul dans son phare, et le seul moment où on est gardien en groupe, c'est à l'école. Donc, ils sont attachés tous, quelle que soit leur nationalité ou leur région, à cette école, parce que c'est là qu'ils ont rencontré d'autres gardiens. Et tous les gardiens métropolitains que j'ai pu rencontrer se souviennent des stagiaires qui venaient d'autres pays et souvent des difficultés d'adaptation liées évidemment au climat. On les fait arriver en plein hiver. Donc il y avait un souci de l'accueil. Alors ces gardiens étaient tous logés dans des locaux qui sont à Brest. Il y a également Auguste Malgorn ou l'ingénieur qui prenait un peu soin de ces gens qui venaient de très loin pour devenir gardiens.
Mais est-ce que leurs relations sont marquées d'une façon ou d'une autre par la grande histoire, par ces rapports colonisés, colonisateurs ?
En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils expriment. Ils sont plus marqués par le métier commun et par le fait qu'on gère les mêmes installations. Ce qui est, au fond, il y a une certaine universalité du phare et on est gardien avant d'être peut-être breton, corse ou sénégalais. Il y a une sorte de communauté professionnelle qui naît à ce moment-là dans cette école.
Et ils sont tous au même niveau puisqu'ils doivent tous apprendre le métier.
Ils ont tous été sélectionnés, soit par voie de concours, soit par par sélection, comme on l'a expliqué au Sénégal. C'est une école, il y a des cours, il y a des examens, il y a des notes, il y a des stages. Donc il y a une formation qui est totalement homogène, très marquée d'ailleurs par les phares en mer de Bretagne, puisqu'on apprend par exemple à faire le feu à pétrole, alors qu'il n'y a pratiquement plus qu'en Bretagne que ça sert. Ça, aussi bien les Corses que d'autres stagiaires disent, on nous apprenait ça, mais chez nous les phares étaient déjà électriques.
Et vous avez trouvé dans les archives de cette école de Brest une photographie avec d'anciens élèves, dont ce gardien de phare sénégalais Amadou Sy, que l'on entend dans votre documentaire, et vous lui avez apporté cette photo.
Oui, les archives de l'école sont encore conservées à Brest. Donc il y a les copies des élèves, il y a des listes. J'ai reconstitué comme ça la liste des stagiaires. Et tout à coup, au milieu de cet ensemble, une photo de promotion et un stagiaire noir, Amadou Sy.
J'ai de maman aussi une belle photo de l'école. Bon, je vois qu'il manque quelques élèves. Il y a le directeur, bon, les deux formateurs, il y a un autre formateur qui n'est pas là. C'est à peu près tout le monde qui est là.
Alors on vous reconnaît hein, au milieu de la photo. Oui. Quel est votre signe caractéristique?
Mais bien sûr, le signe caractéristique, c'est que je suis le seul noir, hein, le seul africain. Quoi.
Non, vous en avez un autre signe caractéristique.
Ah, le bonnet que j'aimais, ça, le bonnet que j'aimais, c'est parce qu'il fait très froid à Brest.
Vous êtes arrivé à Brest à quelle période?
Je crois que c'est l'hiver que je suis arrivé à Brest, ou bien la fin de l'hiver. De toute façon, il faisait très froid à Brest. Et il pleuvait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était humide. Il s'est porté un peu mal, ce froid avec l'humidité. Bon, ce qui me motivait, c'est comme tout élève, hein, être parmi les meilleurs, et surtout comme c'était une formation qui va aboutir sur un travail. Et vraiment, on était motivés. J'ai travaillé bien.
Alors, quels étaient les cours que vous suiviez à l'école? Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école de Brest, des Phares et Balises?
Les cours à l'école, c'était l'électricité, tenue de la mer, c'est-à-dire le matelotage, et la formation mécanique, et une formation générale d'ouvriers de balisage, bon, la peinture, un peu la maçonnerie, et faire des pièces. En gros, bon, on voulait que l'agent des phares puisse quand même être en mesure d'arranger beaucoup de choses avant l'intervention le lendemain des spécialistes. Donc c'est une formation un peu générale au niveau de la technologie que nous recevions.
Vous avez cité un mot là, le matelotage. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est le matelotage? En quoi ça consiste?
Le matelotage, ça consiste au travail de marin. Faire des nœuds, avoir son permis de navigation, ne serait-ce que le permis A, c'est-à-dire le débutant, pouvoir quand même gérer la radiotéléphonie à bord, tenir l'embarcation si le moteur est en panne, c'est-à-dire qu'on avait un instrument là, un peu semblable au pagaie du Sénégal qu'on appelait la godille, bon, qui était un peu ma bête noire, quoi, c'est-à-dire en passant, parce qu'on me disait toujours, à mon défaut, essayer quand même de bien godiller.
Donc la godille, c'est une sorte de pagaie bretonne, c'est ça?
Oui, effectivement, c'est une sorte de pagaie bretonne, si vous voulez. La pagaie, on est à l'aise, parce que ce soit à droite ou à gauche, de n'importe quel côté de l'embarcation. Mais la godille, si mes souvenirs sont bons, il est quelque part derrière l'embarcation. Après, il faut essayer de faire des sortes de huit. Vraiment, c'est pas facile.
Amadou Sy nous dit qu'à Brest, on l'avait obligé à apprendre à godiller. Est-ce que quand il est revenu à Dakar, cet apprentissage brestois de la godille lui a servi à quelque chose, Jean-Alain Gouenvec?
Je suis absolument certain que ça lui a servi à rien du tout, parce que les pirogues sénégalaises ne sont pas étudiées pour pouvoir être propulsées à la godille. Mais là, à l'époque, la subdivision des phares et balises avait une grosse pirogue qui servait à aller au phare des Almadies, et on avait des piroguiers salariés, dont un, on ne savait pas exactement son âge, mais on supposait qu'il avait entre 80 et 90 ans, on ne savait pas exactement, mais c'était un type extraordinaire. Tout se faisait par pirogue à partir de la pointe des Almadies, Il y avait un parcours d'un quart d'heure, 20 minutes en pirogue à moteur. C'était plus pirogue à rame, mais à moteur. On embarquait des quantités de matériaux là-dedans, des sacs de ciment, des sacs d'agrégats. Il y avait des ouvriers dont le travail consistait à écoper parce que l'eau rentrait en permanence. La pirogue oscillait d'un côté à l'autre et se remplissait d'eau. J'étais pas très rassuré, mais enfin, c'était leur méthode. Eux n'étaient pas du tout intimidés. Ils vidaient au fur et à mesure que l'eau rentrait avec des boîtes de conserve.
À part les cours, il y avait beaucoup de stages sur les phares et en particulier. Les agents étaient obligés de faire des stages en mer. Donc je me rappelle d'un stage à Créon, je crois bien. J'ai fait 15 jours en mer sur le phare de Créon. Pour y accéder, c'est un peu difficile. Vu l'état de la mer en France, généralement agité. Donc là, c'est un peu la baignoire des gardiens parce qu'il faut accéder, bien sûr, avec une embarcation. Il y a des sortes de poulies et des sortes de ballons où se tenait l'individu. Et pour descendre, c'était pas très facile. Il fallait se méfier pour ne pas se casser les jambes si on n'est pas habitué. Donc c'est pas facile par rapport à un phare à terre et puis des phares en mer. 15 jours, c'est très long. Et pour deux gardiens chacun une semaine, vraiment c'est difficile.
Pour les élèves de l'école de Brest, au fond, l'apprentissage du phare en mer semble rester l'expérience la plus impressionnante, Vincent Guignot. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça, l'initiation d'un gardien de phare ?
Ça, c'était l'épreuve initiatique, oui, le phare en mer breton. Ce qui comptait sans doute plus, c'est l'apprentissage technique qu'ils recevaient, où ils apprenaient à maîtriser l'ensemble des appareils, moteurs. Et un phare, c'est un lieu très technologique, même si on n'a pas cette perception-là, forcément. Et puis, il y a aussi cette dimension maritime du métier qui est beaucoup plus difficile à définir. Savoir à quoi sert un phare, pourquoi est-ce qu'on doit être attentif à ce qu'il ait le même rythme tous les soirs. Donc cette maritimisation du gardien faisait aussi partie de l'apprentissage. Le gardien de phare est un être un peu amphibie entre les terriens et les marins. Il est l'interface entre ces deux mondes, donc il doit être à la fois technicien et sans doute un peu marin.
En tout cas, avec l'unicité de l'enseignement dans cette école de Brest, une seule école pour tous les gardiens de phare, d'où qu'ils viennent, hein, qu'ils soient bretons, corses, tunisiens, marocains, indochinois, vous l'avez dit, sénégalais, tous doivent sortir gardiens de phare. Ils sont tous sortis gardiens de phare.
Alors, ils avaient le niveau ou le titre d'électromécanicien de phare à la sortie de ce stage. Il y avait un classement même pour les élèves français. Et oui, tous vivent ce passage par l'école comme la véritable initiation à un métier qu'ils connaissaient avant, puisqu'ils avaient tous pratiquement fait des remplacements, étaient stagiaires. Enfin, ils connaissaient le monde des phares et balises. Mais on ne devenait vraiment gardien, maître ou électromécanicien qu'après être passé par cette école de Brest.
Ce que le dernier gardien et donc maître de phare que vous avez rencontré vous a prouvé, il vous a embarqué je crois sur sa chaloupe.
Alors il s'appelle Alassane So, il est maître du phare de Cap Manuel, l'un des trois phares de Dakar. Et plutôt que de me faire visiter son phare, il est aussi responsable des feux qui jalonnent l'entrée vers le port de Dakar. Et c'est cet aspect-là du métier qu'il a voulu me faire partager.
Je me nomme Alassane Amadi Sow, maître du phare Cap Manuel. Là où nous sommes presque à l'entrée du port. On est sur un bateau de Port-au-Prince Dakar qu'on l'appelle Beer. Il y a un autre bateau qu'on appelle Kumba Castel. Donc il y a deux navires qui font la navette pour la destination de Corée. Là, vous avez les feux non lumineux. Ils sont au nombre de 5 pour éviter les navires passent entre le Cap Manuel et l'île de Gorée. Parce qu'il y a des épaves. Il y a un autre aspect aussi. On a le câble d'électrique et le deuxième danger, le tuyau de eau potable qui alimente l'île de Gorée. Il faut les protéger.
C'est pour cela aussi qu'on interdit formellement que les navires passent entre Cap Manuel et Gorée. On est arrivé à hauteur du feu Gorée. C'est un feu de positionnement. Il a un caractère rouge, c'est un feu rouge, donc il y a forcément danger. Il a une rythme 4 éclats toutes les 5 secondes.
Le métier de gardien, ça consistait en quoi quand vous êtes arrivé au phare des Mamelles?
D'abord, j'ai fait 3 ans au phare et balise. En troisième année, on m'a promis d'aller faire une formation à l'école sur place. Bon, j'ai fait là-bas 2 ans. C'est après que j'ai eu un diplôme qu'on m'a amené au phare des Mamelles comme gardien de phare. Mais à l'époque, je n'avais pas appris qu'est-ce que c'est qu'un gardien de phare. Quand j'étais venu, c'est juste on m'a montré comment allumer le phare, comment éteindre. Ça s'arrêtait là. Et lorsque j'ai fait 5 ans, le chef qui était là-bas a vu mon niveau. Il m'a dit, là, il faut que tu sois formé. Le chef s'appelait Jean-Alain Goinvec. C'était un blanc. Alors il m'a envoyé en Bresse pour à peu près 3 mois, parce qu'on faisait une formation accélérée. Parce que c'était en phase de fermer, c'est-à-dire la fermeture de l'école. C'était en 86, lorsqu'on m'a envoyé là-bas. Lorsque je suis revenu, le blanc qui était là, alors il nous a testé. Il m'avait choisi d'être affecté aux Mamelles. Donc c'est comme ça qu'on m'a affecté aux Mamelles comme adjoint pendant 13 ans. Tout de suite, je sais que le savoir que j'ai eu m'a donné une satisfaction au point de vue du travail.
Alassane Sow m'a dit qu'au retour de Brest, vous l'aviez testé, Jean-Alain Goinvec. Qu'est-ce que vous espériez de cet apprentissage à Brest pour vos gardiens?
J'espérais qu'ils apprennent surtout la rigueur dans l'entretien préventif et dans les règles de sécurité. Quand je suis arrivé, comme les personnes les plus compétentes, ceux qui avaient fait l'école des électromécaniciens de Brest travaillaient en fait au parc de balisage, les gardiens auxiliaires qui étaient dans les phares étaient des gens qui avaient tendance à prendre de fâcheuses initiatives, du genre remplacer les fusibles en plomb par des fusibles en cuivre, ou du moins par des fils en cuivre du même calibre que les fils en plomb. Et puis, lorsque le disjoncteur sautait trop souvent, il le calait avec un manche à balai, ce qui effectivement provoquait ensuite de graves dommages dans les tableaux électriques. Je me suis arraché les cheveux, et Abdoulaye Mbaye aussi d'ailleurs. Mais bon, comme fallait se débrouiller avec le personnel qu'on avait. Donc, avoir du personnel qualifié qui déjà ne risque pas de s'électrocuter en manipulant du matériel électrique et puis qui surtout respecte les règles de sécurité était absolument primordial.
Bon, là on a 3 feux, le Tacoma qui est en bouée rouge, la bouée 1 et la bouée 12 et le Rosely Dimbao. Donc chaque feu a sa signalisation pour permettre des navires d'identifier là où ils devaient passer. Le navire est en train de prendre le cap. Donc voilà la situation à l'entrée de Gorée. Pour toujours dans le domaine de la sécurité, que les phares et balises gèrent toujours avec son chef, qui est le commandant Amadou Ndiaye.
Vincent Guignot, finalement, il aura fallu quelques années, après les indépendances, presque 3 décennies, pour que les gardiens de phare deviennent les maîtres de phare au Sénégal. Est-ce que c'est une expression que vous avez entendue ailleurs?
Alors, c'est une expression que je connaissais dans les archives, puisque en métropole, au 19e siècle, on avait cette hiérarchie maître de phare, gardien de phare, qui a disparu à la fin du 19e siècle. Et en allant d'abord au Maroc, en Algérie, puis au Sénégal, j'ai redécouvert les maîtres de phare. Et c'est un héritage du temps où les phares étaient gardés par un maître qui était métropolitain, secondé par des gardiens auxiliaires locaux.
Donc ce mot s'est transmis et je l'ai redécouvert dans des pays où il y a encore des gardiens de phare.
Voilà, c'est ça, le métier de gardien de phare n'est pas en réalité en voie de disparition, enfin à moins qu'il ne soit complètement en France plutôt.
Alors c'est vrai qu'en France, on est dans la quête éperdue du dernier gardien, du dernier phare, alors qu'il suffit d'aller dans des pays comme le Sénégal pour rencontrer des phares vivants, habités, et où on visite encore le phare avec ses gardiens.
Alors une dernière image, si vous le voulez bien, dernière image du phare de Dakar.
Bah c'est sans doute l'image du feu qui s'allume. C'est un moment très important, hein, ce moment de l'allumage. Tout le travail du gardien est tant à ce que ce moment se passe le mieux possible. Et le phare de Dakar, on enlève les rideaux qui protègent l'optique pendant la journée. On démarre le moteur de rotation et le phare lance son éclat blanc toutes les 5 secondes, qui est le signal caractéristique du phare des Mamelles.
Merci Vincent Guiguenot. Votre documentaire Les Maîtres de Phare est à réécouter sur RFI.fr et également sur notre site. On découvre un article que vous signez sur ce même sujet. Les Maîtres de Phare, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde réalisé par Cécile Pompeani. N'hésitez pas à nous écrire, exprimez-vous sur la page Facebook de l'émission. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.